Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ces premières nocturnes de l'économie de l'année 2010. Très heureux et en même temps un peu triste parce qu'on vient d'apprendre qu'Hervé Lebras ne pouvait pas venir, qu'il a eu un accident ce matin et qu'il est chez le médecin. Et donc au dernier moment, il nous a dit « je ne suis pas sûr de pouvoir venir ». Alors, il pourrait arriver en plein milieu de la séance, ce ne serait pas impossible, mais enfin... Moi, je reste dubitatif. On n'a aucune information. On est en train, en ce moment, justement, d'essayer de savoir s'il a trouvé une solution ou pas. Et donc, on va quand même, bien évidemment, pouvoir parler de ces migrations internationales. Je crois qu'il y a vraiment un des sujets extrêmement importants. Et quand je regarde l'enquête qu'on avait faite auprès du public des Journées de l'économie, c'était un des sujets qui était arrivé dans les sujets de préoccupation, qui était parmi les plus présents. Donc je suis assez heureux qu'on puisse essayer d'y répondre aujourd'hui. Je vais tout de suite laisser la parole à Brigitte Perruca qui va animer cette séance, présenter nos intervenants. Et puis vous dire aussi, j'espère qu'on vous retrouvera pour les journées de l'économie le 9, 10 et 11 novembre. Je crois qu'on est en train de préparer un programme aussi qui aura un intérêt évident et où l'OCDE sera a priori très très bien représenté cette année. Voilà.
Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureuse d'animer ce débat aujourd'hui avec vous. Malgré l'absence d'Hervé Lebras, je ne doute pas que vous en ferez votre miel, parce que nous avons là les peut-être deux meilleurs experts français, et en tout cas bien situés au plan international. Alors quand on parle de migration internationale, c'est un sujet énorme. D'ailleurs, on l'a laissé assez volontairement ouvert, hein, en parlant d'enjeux et de perspectives. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'un peu plus de 200 millions de personnes, 200 millions de migrants, 3% de la population mondiale qui serait en migration, qui est en migration. Alors, c'est pas beaucoup, et pourtant, c'est un phénomène qui a été multiplié par 3 en 40 ans. Hein, donc, la plupart des experts s'accordent à dire qu'on est en train de vivre la deuxième grande vague de migration après celle qu'on a connue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc ce sera intéressant de voir si c'est jusqu'où cette vague va-t-elle aller et de voir comment mondialisation et migration vont aujourd'hui complètement de pair. Alors d'où viennent, où vont ces migrants? Contrairement à ce qu'on croit souvent, la migration du sud vers le nord, ça ne représente qu'un gros tiers des migrations, donc c'est pas si énorme que ça, c'est pas le déferlement dont certains parlent, pas du tout. C'est vrai que l'Europe est devenue le premier continent d'accueil. Je pense que les personnes qui sont à côté de moi en parleront. C'est important au regard de la démographie, notamment, par exemple. C'est un des points que nous aborderons. Et évidemment, ce phénomène migratoire a toutes les chances de s'accroître, précisément à cause de nos problèmes, du déficit démographique que nous connaissons en Europe. Mais encore faut-il que les gens continuent de partir, ce qui n'est pas sûr, vu la transition démographique dans laquelle tout le monde entier est engagé. Voilà, alors ces migrants, je disais, d'où viennent-ils, qui sont-ils? On sait beaucoup de choses, bien sûr, mais on sait que la moitié d'entre eux sont des travailleurs, et qu'on sait aussi la tentation de nos pays développés, des pays du Nord, et d'essayer de contrôler ces flux, bien entendu, hein, pour essayer de les adapter au mieux aux évolutions du marché, de leur marché du travail. Alors est-ce que ça marche? Évidemment, ça ne marche pas très bien. Et comment on peut faire? Comment on peut améliorer cette adéquation? Voilà, nous aborderons aussi les questions de régulation au plan international, parce que le monde, la planète entière, qui est si prompte à réguler toutes sortes de droits, et surtout ceux qui ont affaire avec l'économie et le commerce, ne semble pas très partante pour, réguler la question des migrations. Alors, est-ce qu'il nous faudrait une espèce d'instance internationale qui, aujourd'hui, n'existe pas et qui permettrait d'organiser le droit de ces gens et d'organiser le droit d'entrée comme on a le droit, aujourd'hui, de sortir, de quitter son propre pays? Voilà. Alors, je vous disais, les experts qui sont présents à ce débat et qui vont intervenir sont parmi les meilleurs. Donc, d'abord, Catherine Vitold de Venden, qui est directrice de recherche au CERI, au Centre d'études et de recherche internationale, qui est enseignante à Sciences Po et qui est, bien sûr, l'auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai les deux derniers. La globalisation humaine, qui a été publiée en 2009, merci, au PUF, et l'Atlas mondial des migrations, qui est publié aux éditions Autrement, et qui est un petit bouquin fort utile, qui donne un très bon aperçu de ces questions. Ensuite, Monsieur Jean-Pierre Garçon, qui est économiste et chef de la division des migrations internationales à l'OCDE. Donc, c'est d'abord, contrairement aux règles de la galanterie, que je vais à Monsieur Garçon, que je vais passer la parole. Tout ça se fera en alternance, aussi en alternance avec vous et avec vos questions, bien sûr. Je tâcherai, après chaque petite partie, nous avons divisé ça de façon très, très aléatoire, j'irai pour l'instant, de vous passer la parole. Et donc, n'hésitez pas à la prendre. Monsieur Garçon.
Je remercie les deux dames du panel de me faire la galanterie de me donner la parole en premier. C'est sympa. Et quoi l'opportunité, comme on dit, dans l'autre sens. Et j'apprécie beaucoup. Et je vais vous la rendre, vous inquiétez pas. Alors, on s'est partagé un petit peu le travail dans la partie introductive. Non pas qu'on considère que vous êtes ignorant, loin de là. On apprend de tout le monde et à tout moment. Mais tout simplement pour clarifier un petit peu le débat par la suite et être sûr qu'on sait de quoi on parle et on peut éventuellement baliser un petit peu la discussion sur un sujet qui donne lieu à beaucoup de dérapages, contrôlé ou pas contrôlé. Donc le mieux, c'est d'essayer un petit peu de rester sur les fondamentaux et de profiter d'avoir la chance d'être dans cette maison avec vous pour pouvoir échanger un certain nombre de points de vue et essayer, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Alors, moi, je remercie les organisateurs, Pascal Lemaire, de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir que je suis ici. Et beaucoup d'émotion, parce qu'en fait, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez, je suis un enfant de Raymond Barre. Donc, il a été mon prof du temps où l'économie était politique. Et donc, je suis un économiste style Ancien Testament. Ça veut dire des économistes qui savent ce que c'est que la société, qui savent ce que c'est que les enjeux politiques de l'économie et qui ont déjà vu des chômeurs. Et en ce qui me concerne, je m'en suis occupé pendant 4 ans à l'université. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je tenais à dire. Alors, pour le débat de ce soir, il me semble qu'il y a un certain nombre de points qui sont utiles, parce que les enjeux des migrations, avant de discuter des perspectives, ben, ce sont des enjeux démographiques, des enjeux économiques, politiques, des enjeux sociaux. Nous sommes entre citoyens, et vous avez tous des points de vue et des expériences sur ce sujet, donc je n'insiste pas. Ce qu'on peut faire peut-être comme remarque dans la vision un petit peu globale et internationale, c'est de dire finalement que les mouvements migratoires ont toujours été en avance par rapport aux lois. C'est intéressant de le dire parce qu'aujourd'hui, on met l'accent sur les contrôles, sur tous ces aspects-là qui font partie de la politique migratoire. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de la migration, une grande partie des mouvements migratoires ont été des mouvements irréguliers, pas contrôlés au début. Par exemple, toute la migration portugaise en France, c'est une migration qui a fait au salto, qui est partie du Portugal pour ne pas aller faire la guerre en Angola et qui est vraiment à essayer de tourner la politique de Salazar qui empêchait les immigrés qualifiés de quitter le pays, qui empêchait les immigrés de partir avec leur famille. Bref, donc on pourrait citer d'autres exemples et à l'occasion, dans la discussion, on verra. Ce qui est intéressant dans le débat, c'est d'abord de voir qu'il y a plusieurs systèmes migratoires. Alors on va parler de plusieurs pays, des États-Unis, de la Russie, des pays africains, de tout ce que vous voulez, mais en même temps, quand on regarde la migration, on peut essayer de distinguer trois grands systèmes. Un système qui est le plus intéressant, parce qu'il a des dimensions, il a toutes les dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure dans les enjeux, c'est ce qu'on appelle la migration d'installation. Et dans les analyses qu'on fait dans les pays, on appelle ça les « settlement countries », les pays d'installation. Eh bien, là, ça veut dire qu'on veut des immigrés pour qu'ils restent, pour qu'ils s'installent. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on consulte les statistiques de l'Australie, du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, quand on parle de migration, d'immigrés, c'est des immigrés permanents. Et si vous regardez les statistiques, par exemple, des États-Unis, toute l'immigration temporaire, ça s'appelle non-immigrants, ce qui est folklore, mais c'est comme ça. Bon, alors, ça, c'est un système. Le deuxième système, c'est un système où on mélange un peu la migration travail, il est fondé sur le travail. Et on y ajoute un peu de famille, un peu d'humanitaire, etc. Donc c'est une petite mayonnaise. Et on pourrait dire que la France fait partie de ce système, comme l'Allemagne, par exemple. Et un autre système, c'est le système où on prend les immigrés qu'en tant que travailleurs. Alors ça, c'est l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est loin d'être une référence, mais qu'il faut quand même évoquer. Donc là, vous venez, vous travaillez. Si vous êtes malade, vous dégagez. Si vous faites une manif, on vous dégage. Dès que vous arrivez, on vous pique votre passeport. Vous n'existez pas. Sauf si vous êtes un super ingénieur ou autre. Là, on va vous traiter un peu différemment. Mais moi, je parle du peuple. Donc le peuple, il n'existe pas. Il n'a pas de passeport. Et il travaille. Et s'il ne travaille pas, on le jette. C'est de la migration temporaire. C'est des contrats. Ils arrivent comme l'armée. Dans ces pays, et on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Donc voilà les trois systèmes. Alors, dans leur fonctionnement, ces systèmes évoluent. Et on voit bien que la France est un pays d'installation. Ça veut dire que, normalement, on ne rentre pas avec un permis permanent en France, mais on renouvelle les permis, et au bout du compte, on se retrouve à un système à l'américaine ou un système à l'australienne. Ensuite, parmi les éléments fondamentaux de base, de référence pour la discussion, il faut distinguer entre un immigré et un étranger. Nous, à l'OCDE, on a réussi à convaincre beaucoup de pays européens de travailler sur des statistiques d'immigrés. Qu'est-ce que c'est un immigré ? C'est quelqu'un qui n'est pas né dans le pays. Ça, c'est facile à repérer. Alors, on fait des statistiques et on fait des études sur les foreign-born, les gens nés à l'étranger. C'est le concept de base dans les pays d'installation. Les étrangers, c'est un concept plus compliqué, parce que vous pouvez être étranger sans jamais avoir été un immigré. Vous êtes né étranger sur le sol. Et là, vous voyez, les différences sont énormes. Si vous prenez un pays où c'est très difficile d'acquérir la nationalité, comme la Grèce ou comme l'Allemagne avant l'an 2000, eh bien, vous pouvez être turc en Allemagne depuis 20 ans, depuis 25 ans, vous êtes toujours turc. Ça veut dire que dans les statistiques allemandes, sur les étrangers, c'est gonflé. Alors que comparé à la France ou à la Belgique, où il y a des lois sur les naturalisations qui sont beaucoup plus libérales, eh bien, vous êtes reversé dans la population nationale et vous n'êtes plus étranger lorsque vous avez acquis la nationalité française pour diverses raisons qui ne sont pas à l'ordre du jour pour l'instant. Mais c'était ça que je voulais indiquer. L'autre élément intéressant dans les réflexions, c'est de dire... Qu'est-ce qu'il y a comme catégorie d'immigrés ? Il y a des politiques migratoires qui régissent la migration, et on peut distinguer trois catégories d'immigrés. Les immigrés qui viennent pour travailler, les immigrés qui viennent au titre de la famille, c'est-à-dire du regroupement familial. Si le travailleur arrive avant, il peut ensuite faire venir sa famille, on verra comment, si vous le souhaitez. Et il y a quelque chose qui existe de façon extrêmement intéressante dans les systèmes canadiens, américains, australiens, etc., qu'on vante parfois en Europe, dont on voudrait s'inspirer, surtout le Canada, eh bien, c'est que la migration familiale, elle arrive avec le travailleur. Ça veut dire que quand on prend un immigré, il peut amener sa famille avec lui. Donc c'est plus du regroupement familial, c'est ce qu'on appelle la famille accompagnante. Et ensuite, vous avez une autre catégorie, que sont les migrations à caractère humanitaire, réfugiés, demandeurs d'asile, etc. Et à mon sens, c'est important d'établir des distinctions, bien que je vais vous dire tout de suite quelque chose qui va brouiller la situation, c'est qu'il y a des changements de statut. Ça veut dire que vous pouvez rentrer comme travailleur temporaire et devenir quasiment permanent. Vous pouvez rentrer comme membre de famille et accéder au marché du travail et donc devenir travailleur. Vous pouvez rentrer comme réfugié et puis rester et travailler. Bon, donc finalement, vous pouvez rentrer comme étudiant et ensuite accéder au marché du travail. Vous pouvez rentrer célibataire et vous marier. Et si vous vous mariez si votre conjoint a la nationalité du pays d'accueil dans plusieurs pays, vous devenez français. Hein, vous êtes toujours immigré, mais vous devenez français, par exemple, s'ils sont en France. Bon. Donc on peut changer de catégorie. Et les politiques migratoires jouent là-dessus aussi. Hein. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de... Il y a des distinctions entre pays d'accueil et pays d'origine ou pays de départ. Et là aussi, il y a des évolutions. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont été des grands pays d'émigration, comme l'Irlande, par exemple, comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, pour rester en Europe, et qui sont devenus progressivement, et parfois même rapidement, des pays d'immigration. Donc on ne reste pas ad vitam aeternam un pays d'émigration, on peut aussi devenir un pays d'immigration. Et puis il y a un concept flou sur lequel je suis très sceptique, mais il faut être honnête et dire les choses comme elles existent dans les débats politiques et autres. Il y a ce qu'on appelle les pays de transit ou les migrations de transit. Bon, vous voyez à quoi ça fait penser, mais si on arrive à s'abstraire de ça, on peut dire que ce sont des pays à travers lesquels les migrants passent pour aller ailleurs. Alors, exemple, les gens qui viennent du sud, El Sur, et qui vont au nord, El Norte, dans le continent américain, ils traversent le Mexique, si jamais ils ont de la chance, ils arrivent, parce qu'en ce moment, ça tue beaucoup au Mexique. Et donc, il y a pas mal de trafic. Et donc, voilà, donc, l'objectif, c'est d'arriver là où on veut arriver, ou alors on venait de l'extrême est et on essayait d'atteindre l'ouest, ou bien ceux que vous connaissez, qui essayent de traverser la Méditerranée ou d'aller aux îles Canaries dans des conditions extrêmement dangereuses. Alors, ça, ce sont aussi des choses importantes. Et puis, finalement, ce sont les frontières qui créent les migrations. Regardez un exemple. Le Royaume-Uni, le 1er mai 2004, les Anglais, qui ne sont pas des champions de l'Europe, quoi, d'abord, ils n'ont pas l'euro, deuxièmement, ils roulent à gauche, donc ils, si vous voulez, ils ont pris une décision incroyable. Ils ont dit, à partir du 1er mai, tous les nouveaux pays membres de l'Union européenne peuvent s'installer et travailler dans le pays. C'est génial, parce que politiquement, ça vous montre comme le meilleur pays européen. Ils étaient trois, d'ailleurs. Il y avait l'Irlande et la Suède. Mmh. Mais en même temps, du jour au lendemain, tous les clandestins qu'il y avait au Royaume-Uni, qui venaient de République tchèque, de tous les pays nouvellement entrants dans l'Union européenne, terminé. C'est terminé. Donc, je parle, pour terminer, des clandestins, des irréguliers. Donc, c'est la frontière qui va faire la notion de migrant ou pas. C'est aussi le statut qu'on vous donne, le statut que vous avez ou que vous n'avez pas, ou que vous allez acquérir. Et du jour au lendemain, tous ces gens-là qui étaient clandestins, pas tous, il y en avait une grosse partie, mettons, eh bien, ils sont devenus réguliers sans faire de pub, sans dire qu'on a fait une régularisation, sans dire qu'il ne faut pas de régularisation massive. Vous voyez à quoi je fais allusion. Bon, donc, finalement, ça, c'est un truc intéressant. D'accord ? Bon. Alors, dans la série, ça ne marche pas dans tous les pays. Eh bien, vous avez un pays comme les États-Unis où il y a entre 10 et 12 millions d'immigrés en situation irrégulière. Ça, ça fait mal. Ça fait surtout mal quand vous voulez essayer de trouver une solution. Tant qu'il n'y a pas de solution, bon, on peut voir. Mais quand vous dites « on veut régulariser », là, ça fait mal, parce que là, on ne discute pas de 200 000, 300 000 ou 400 000 ou 700 000. On discute donc de 10 à 12 millions. Voilà. Alors, pour terminer, un autre concept important, c'est celui de solde migratoire. Ça veut dire que lorsque vous regardez la situation d'un pays, qu'est-ce qui peut se passer dans un pays ? Eh bien, dans la population du pays, vous avez des résidents. Parmi les résidents, vous avez des gens qui sont nés dans le pays, des gens qui sont nés à l'étranger, des gens qui peuvent être nationaux ou étrangers, mais c'est surtout des gens qui peuvent bouger. Donc, lorsqu'on regarde les migrations, les plus loin migrations, il faut regarder les gens qui quittent le pays et les gens qui rentrent dans le pays, et donc on calcule, avec beaucoup de difficultés, un solde qu'on appelle les migrations nettes. Donc, si on veut regarder l'apport migratoire dans un pays, il faut savoir quel est l'apport migratoire net. Mais dans ces mouvements migration entrée-sortie, qui concernent aussi des nationaux, il y a aussi des catégories de personnes différentes. Ça veut dire que souvent, les gens qui quittent le pays, qui retournent... Par exemple, il y a un grand mouvement de migration de retraités, des gens qui vont passer leur retraite à l'étranger et qui vont s'installer. Ça, c'est une nouvelle catégorie de migration. Bon, ben ça sort de la population résidente et ça va à l'étranger. Donc, la question de migration nette, pourquoi elle est importante ? Elle est importante pour une autre partie de la discussion qu'on va avoir, c'est-à-dire les enjeux démographiques en matière de migration, parce que une des caractéristiques, en tout cas dans les pays de l'OCDE, c'est que l'augmentation de la population des pays de l'OCDE est en grande partie due à l'apport de la migration et non pas à ce qu'on appelle l'accroissement naturel, c'est-à-dire l'excédent des naissances sur les décès. Et il existe aussi, pour essayer de s'y retrouver dans tous ces éléments que je viens d'évoquer, un certain nombre d'outils statistiques. Alors vous avez des recensements, qui par définition sont les plus exhaustifs, mais malheureusement, ils ne se font pas tous les ans, sauf qu'il y a maintenant des techniques. qui permettent un petit peu d'améliorer les espaces intersensitaires. Il y a des enquêtes qui sont faites auprès de la population, notamment dans le cas de l'Europe, via les enquêtes d'Eurostat, les enquêtes de population. Ensuite, vous avez des statistiques sur les flux, plus ou moins flous, ça dépend des pays, on en parlera. Et puis vous avez des statistiques sur des migrations temporaires ou des migrations permanentes. Alors, tout le travail qu'on fait ces dernières années à l'OCDE, c'est d'essayer d'harmoniser ces données pour pouvoir faire des comparaisons internationales, sinon on ne peut pas comparer, et essayer surtout de distinguer dans les flux quels sont les flux qui ont un caractère permanent et quels sont les flux qui ont un caractère temporaire. Et pour terminer, où sont les immigrés, les grandes régions ? Catherine va vous montrer ça plus en détail. Moi, je me bornerai à vous dire que les grandes régions d'accueil des immigrés, c'est d'abord l'Europe. Brigitte vous a parlé d'un chiffre de 213 millions, un chiffre de l'ONU. On ne va pas le discuter parce que ce n'est pas intéressant, mais ça vous donne une idée. Donc, une grande partie des immigrés sont en Europe et en Asie. 70 millions parmi ces 213 sont en Europe, 61 millions en Asie, en Amérique du Nord, 50 millions. Donc, un gros paquet des immigrés sont dans les pays développés, mais il y a aussi beaucoup d'immigrés dans les pays moins développés, dans les pays en développement, à commencer par l'Afrique, avec au moins 20 millions, suivi de l'Amérique latine, et puis après, bien loin, ce n'est pas un pays, une région, disons, sous-développée, c'est l'Océanie, essentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des grands pays d'immigration. Pour vous donner une idée, nous, on est en France, alors on raisonne avec la référence française, mais si vous sortez de là, vous donnez une idée, au Canada, 24% de la population est née à l'étranger. En Australie, c'est à peu près pareil. Au Luxembourg, bon, c'est une exception, mais c'est 50% de la population. En Suisse, dont on parle beaucoup, avec ou sans minaret, eh bien, ils en sont quand même à presque 25%. Bon. Donc, faut voir les trucs, quoi. La Pologne, 0,9% d'immigrés. Donc, on est cette Europe dite unie, où elle n'est pas unie pour tout, on l'a vu, mais elle n'est pas non plus concernée de la même manière par la migration. Et puis, dans la série quiz, savez-vous quel est le deuxième pays qui a le plus d'immigrés au monde ? Eh bien, c'est la Russie. Voilà, alors réfléchissez à ça, et après, vous allez regarder les cartes, c'est plus passionnant. Merci.
Merci, Jean-Pierre Garçon. Donc, comme je vous disais, on alterne. Là, je vais passer la parole à Catherine Vitol de Vanden, qui va vous donner, elle, effectivement, vous montrer des cartes et vous montrer quelles sont les régions, comment ça s'organise des systèmes migratoires entre les régions du monde, entre autres. Alors, pour basculer...